Radio Kapi.
Le journal Blaise Shindani Kambala.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. 13 enfants kidnappés et des structures de santé dévastées lors d'une incursion des rebelles de la LRA la semaine dernière dans un village dans les territoires d'Ango, dans les Bazouélé. L'alerte est de l'ONG Save the Children et de la Commission diocésaine Justice et Paix de Dungu. Dans le Lualaba, depuis que des produits radioactifs ont été signalés dans la zone du Ramblé T17, dans la concession de l'entreprise Kasesia Kolwezi, aucun dispositif n'est encore pris pour sécuriser les sites et protéger les populations qui sont exposées à la radioactivité. La première édition de la conférence consacrée à l'agriculture, à l'environnement, au tourisme et à la gestion de l'eau s'ouvre ce mercredi 8 avril sur les sites Luama 2 de l'université de Kindu. Quels sont les objectifs poursuivis par cette rencontre? Pour en parler, nous recevons le gouverneur du Maniema, Moussa Kabwankubi Moïse. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nouveau cri d'alarme dans les Bazouélé. Le territoire d'Ango a été la cible d'une violente incursion des rebelles de la LRA la semaine dernière dans les villages Balé, groupement Ibalé, en chefferie Sassa, située à 125 km au nord-ouest du chef-lieu du territoire. Selon l'alerte de l'ONG Save the Children et la Commission diocésaine Justice et Paix de Dungu, les bilans est lourd. 13 enfants kidnappés et des structures de santé dévastées. Un drame qui repose la question de la porosité des frontières nationales. Le point avec Jacques Moukonkolé.
L'horreur a frappé au milieu de la nuit entre le 3 et le 4 avril. Profitant de l'absence des militaires partis à Ango Centre pour un contrôle biométrique, des combattants de la LRA ont investi le village Balé. Selon la société civile locale, le bilan de cette incursion est glaçant. 13 adolescents, dont 9 filles et 4 garçons de 10 à 16 ans, ont été amenés de force vers la brousse. Toujours selon la même source, ces assaillants s'exprimant en Lingala et en Pazandé ne se sont pas arrêtés là. Ils ont systématiquement pillé le centre de santé des copeaux, détruisant la chaîne de froid et les installations médicales avant de vider les boutiques du village. En raison de l'enclavement total de la zone et du manque de moyens de communication, l'alerte n'est parvenue aux autorités que 48 heures plus tard. Face à cette menace qui se déplace désormais vers Bili, la société civile de forces vives de la chefferie Mopoy tape du poing sur la table. Elle exige de Kinshasa une réaction immédiate. Il ne s'agit plus seulement d'envoyer des hommes, mais de doter enfin les FRDC des moyens logistiques sérieux pour sécuriser la frontière avec la Centrafrique, devenue un véritable tamis. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Jusqu'à là, nous n'avons enregistré aucune réaction officielle sur ces sujets. Restons dans la région. Des membres de la communauté Mamba Moussa, originaires du territoire de Mambasa, condamnent la recrudescence des violences dans leur entité située à environ 165 km au sud-ouest de Bounia. Ils l'ont exprimé ce lundi lors d'une conférence avec la MONUSCO. Cette structure s'est dit profondément préoccupée par les tueries et les enlèvements des civils attribués aux rebelles des ADF. Elle déplore également ce qu'elle considère comme un manque de réactivité des forces de sécurité pour protéger les populations. La communauté appelle les autorités à faire preuve de plus de proactivité en répondant rapidement aux alertes sécuritaires afin de prévenir de nouvelles attaques de ces rebelles actifs dans les zones forestières environnantes. Espoir Olinga, porte-parole de la communauté Mamba Moussa, s'exprime au micro de Martial Kizabiamungu.
Les ADF ont mis, que ce soit la communauté, dans une situation terrible. Il faisait presque une semaine, les ADF ont attaqué Mouchacha. De Mouchacha, ils ont attaqué Babessoa. De Babessoa, Babessoa, c'est un village qui se trouve à 120 km de Mombasa centre. Mais un jour après, ils vont attaquer Ndjaro à plus de 120 km de l'autre côté, au nord de Mambasa. Ça, c'est du côté de l'axe Mambasa-Dingbo. Vraiment, nous condamnons avec la toute dernière énergie ces actes macabres, surtout ignobles, de ces ADF dans le territoire de Mambasa. Nous, en tant que communauté, nous faisons confiance aux institutions établies également à notre armée. Nous demandons seulement à l'armée de prendre en compte les alertes de la population. C'est pas normal qu'on alerte et que, à la fin des comptes, il n'y a aucune action qui est entreprise et deux ou un jour après, les ADF viennent frapper. Vraiment, ça inquiète la communauté. Nous continuons à faire confiance à notre armée, mais nous demandons qu'elle soit vraiment beaucoup plus proactive.
Revenons à Kinshasa. 9 mois après la signature de l'accord le 27 juin 2025 entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique, la mise en œuvre de l'accord demeure globalement limitée en dépit d'un progrès modéré observé au cours du mois de mars 2026. Cette affirmation est contenue dans le rapport publié hier lundi par le baromètre des accords de paix en Afrique intitulé « Rapport d'évaluation de la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington mars 2026 ». Selon cette structure, cette évolution reflète notamment l'amorce d'engagements sensibles et prioritaires de l'accord, dont les opérations de neutralisation des FDLR. Toutefois, cette dynamique encourageante est tempérée par la persistance des conditions humanitaires singulièrement préoccupante. Plus de détails avec vous, Alain Irungumushi.
Parmi les constats positifs enregistrés du 1er au 31 mars 2026, le rapport note par exemple le lancement le 29 mars 2026 de la phase offensive de neutralisation des FDLR. Cependant, le nombre exact d'éléments ayant volontairement répondu à l'appel à la reddition lors de la phase de sensibilisation ainsi que le calendrier de la phase offensive n'ont pas été précisés. Il y a aussi la réinsertion sociale au Rwanda de plus de 200 ex-combattants des FDLR selon un rapport publié par The New Times Rwanda constitue une évolution susceptible d'encourager d'autres redditions d'éléments encore présents dans l'est de la RDC. En revanche, indique le rapport, les principaux défis observés concernent notamment la poursuite des hostilités entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 marquée par un recours croissant à l'utilisation des drones offensifs comme l'indique un rapport de la MONUSCO, la déficience de la trêve dans le cadre du mécanisme conjoint de vérification élargi plus, ainsi que l'absence préoccupante de l'accès humanitaire effectif et sans entrave au profit des populations civiles.
Le commissaire provincial de la police nationale congolaise à Kinshasa, Israël Kantou Bakoulou, a ordonné à tous les éléments de sa juridiction de cesser immédiatement l'arrestation arbitraire des jeunes à cause de leur extravagance et leur chevelure. Il a donné cette injonction, c'est lundi 6 avril 2025, au cours d'une réunion avec tous les commandants des commissariats urbains, des districts, des groupes mobiles d'intervention et des unités de la circulation routière. Israël Kantou Bakoulou a préciser que cette injonction s'inscrit dans le cadre des instructions précises reçues du président de la République à la suite d'une plainte formelle des jeunes Kinois lors de la réception des Léopards dimanche dernier. Depuis que des produits radioactifs ont été signalés dans la zone du Ramblais T17, dans la concession de l'entreprise KCCA Kolwezi, dans la province du Lualaba, aucun dispositif n'est encore pris pour sécuriser les sites et protéger les populations qui sont exposées à la radioactivité. Cela, malgré la promesse du gouvernement de prendre des mesures en urgence. Plusieurs sources confirment la présence des creuseurs artisanaux au niveau du Ramblais T17 en train d'exploiter des minerais. Le point avec Paulin Mounanga.
D'après les coordonnateurs de la nouvelle société civile congolaise du Lualaba, les creuseurs artisanaux sont présents au niveau du Ramblais T17 en train d'exploiter des minerais, mais en effectif réduit. Lambert Mendalubamba précise que jusqu'à présent, il n'y a aucun dispositif sécuritaire qui est mis en place pour empêcher les creuseurs de s'introduire dans les périmètres du site. Il signale la présence des éléments de la police au niveau du site, mais ces éléments n'empêchent pas les creuseurs de s'y introduire. Lambert Mendalubamba, coordonnateur de la nouvelle société civile du Lualaba, annonce que sa structure est en train de sensibiliser les creuseurs à ne pas se rendre sur le site T17 à cause de la présence des produits radioactifs.
Nous avons commencé la sensibilisation disant à nos compatriotes que vraiment la décision là ce n'est pas un subterfuge, c'est une décision sanitaire. Quand l'État est saisi qu'il y a dans un site des produits radioactifs qui sont potentiellement dangereux à la santé humaine, il faut dégager. On veut préserver votre santé.
Pour rappel, le gouvernement de la République a lancé dernièrement une alerte sanitaire urgente relative à des risques d'irradiation et de contamination radioactive signalés sur ce site de la société minière KCC à Kolwezi. Et il a annoncé que des mesures seront prises pour sécuriser les sites, protéger la population et l'environnement. Lubumbashi, Paulin Mounanga, Radio Okapi.
Qu'en est-il de la réhabilitation de l'aéroport de Mavivi à Beni au nord Kivu après l'incendie qui a ravagé ses installations? La question est désormais portée à l'Assemblée nationale. Le député national Jules Mumbere Maté interpelle les autorités à travers une question orale adressée au directeur général de la régie des voies aériennes déposée le 3 avril dernier. L'élu du territoire de Beni réclame des explications sur l'état actuel de l'aéroport et sur l'arrêt des travaux de réhabilitation alors que ceux-ci avaient déjà été lancés. Il dit également avoir saisi le ministre des Finances pour des éclaircissements sur le financement de ces travaux. On écoute Jules Mumbere Maté au micro de Grâce Amzati Masanzi.
Actuellement, l'aéroport de Beni n'a plus de bureau. Donc, pour les check-in et autres formalités, on les fait à ciel ouvert. Et c'est la chose qui nous a inquiétés. Et nous en appelons au directeur général de la régie des voies aériennes de prendre ses responsabilités et de construire le plus vite possible le bureau et de les équiper, mais aussi de nous donner la cause de cet incendie pour nous permettre d'analyser si ça ne pouvait plus encore revenir lorsque on va reconstruire le bureau. Autre chose, il a quel plan pour d'autres aéroports pour qu'il n'y ait pas incendie, parce que on a presque tout perdu dans cet aéroport de Beni et nous voulons revoir le bureau, parce que je suis en train de m'imaginer si aujourd'hui là, il y a une délégation, il y a des autorités qui atterrissent à Beni, où est-ce qu'ils seront accueillis? À ciel ouvert comme ça, c'est pas quand même responsable dans une république qui se respecte.
Au sud qui vous voisin, la radio communautaire de Bunakiri, RC Bou, intensifie ses activités en faveur de jeunes filles reporters. L'objectif est de leur apprendre à devenir économiquement autonomes tout en poursuivant leur scolarité afin d'alléger les multiples charges des parents fragilisés par la guerre. La plupart de ces jeunes reporters étant encore élèves, elles profitent de leurs vacances pour acquérir des compétences dans différents métiers générateurs de revenus. Les séances d'apprentissage organisées durant les congés de Pâques se sont clôturées samedi dernier à Bunakiri. Un reportage de Jean Kassami.
La radio communautaire de Bunakiri, RC Bou, a pour ambition principale de promouvoir la créativité et les savoir-faire locaux chez les jeunes filles du milieu. Simo Weteshi Mihona, superviseur principal des activités.
Cette formation s'inscrit dans une dynamique d'autonomisation de jeunes filles, en particulier des filles reporters, et leur offrir des compétences pratiques en artisanat, notamment dans la fabrication des sacs, pochettes et bracelets en perles, afin donc de renforcer leur capacité à générer de revenus. Au-delà donc de ces aspects économiques, cette initiative vise également à encourager l'entrepreneuriat, mais également offrir une alternative constructive face aux risques liés à l'oisiveté.
Les apprenantes trouvent en cette initiative une bonne occasion de préparer leur avenir. Tangazo Jovial et Kubali Joséphine ont participé activement aux séances de formation.
Au lieu de rester sans rien faire pendant les vacances de Pâques, nous apprenons quelque chose d'utile pour notre avenir.
Je suis très contente de participer à cette formation. J'espère apprendre rapidement pour pouvoir fabriquer et vendre mes propres sacs. Cela peut m'aider à subvenir à mes besoins.
Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
En plus bref, le gouverneur de la ville de Kinshasa porte à la connaissance du public que le lancement des opérations de souscription pour l'obtention d'étal, kiosques, magasins et chambres froides au sein du nouveau marché central de Kinshasa, dénommé Zando, interviendra ce mardi 7 avril 2026 sur les sites du jardin botanique de Kinshasa. À cet effet, l'opération d'identification des requérants se déroulera du 7 avril au 20 avril 2026 de 8h30 à 16h30. Pour prétendre à l'attribution d'un emplacement, les requérants doivent remplir les critères suivants. Être de nationalité congolaise ou une société de droit congolais, disposer de la carte des résidents pour les étrangers, être âgé de plus de 18 ans, être revêtu de la qualité de commerçant, disposer de la preuve des paiements de l'impôt foncier ou de l'impôt sur les revenus locatifs pour obtenir le quitus fiscal. Le territoire de l'Oubefo dans la province du Sankourou vient de franchir une étape importante dans la modernisation de son agriculture. Trois tracteurs agricoles arrivés dimanche ont été officiellement présentés lundi devant la maison communale par la coopérative pour le développement de l'Oubefo Codel. Cette initiative est portée par le député national Hippolyte Njongambo Djadi. Des explications avec Esther Ndalafina.
Fruit d'un partenariat entre la CODEL et le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, ces engins marquent le passage d'une agriculture essentiellement manuelle de manioc, de riz et d'arachide vers une production mécanisée. La population a accueilli cette dotation avec enthousiasme. Pauline Pomolokoy, agricultrice.
Ces tracteurs viennent soulager nos peines et renforcer nos travaux. Nous avons désormais plus d'espoir pour améliorer nos récoltes.
Pour garantir l'accès aux engins, l'initiateur de la CODEL a prévu des fuites de carburant, selon Gabrielle Chaco, présidente de la coopérative.
Lors de chaque récolte, 30% de la production sera retenue et vendue pour assurer la continuité du projet.
Quant à l'entretien de ces engins, la CODEL a planifié de cette manière.
En dehors des cotisations, il y a aussi les revenus issus de la vente de 30%, sans oublier les dons de nos sponsors.
Ce nouvel appui s'ajoute aux aides déjà reçues l'an dernier par les paysans de l'Oubefou, constitués des semences de riz et d'arachide, des outils aratoires et vêtements distribués gratuitement. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le ministère des Relations extérieures du Cameroun a communiqué ce 6 avril 2026 une liste de 16 personnes de nationalité camerounaise qui exerçaient dans la zone d'opération militaire spéciale, terminologie employée par la Russie pour désigner la guerre en Ukraine. Une liste de décès transmise par l'ambassade russe à Yaoundé.
L'invité.
La première édition de la conférence consacrée à l'agriculture, à l'environnement, au tourisme et à la gestion de l'eau s'ouvre ce mercredi 8 avril sur le site Luama 2 de l'Université de Kindu. Pendant 3 jours, ces assises réuniront des participants issus des divers horizons pour réfléchir aux enjeux liés à ces secteurs stratégiques. Quels sont les objectifs poursuivis par cette rencontre? Éléments de réponse avec le gouverneur du Maniema, Moussa Kabwankubi Moïse, dans cet entretien accordé à Florence Kizalunga.
Moïse Moussa Kabwankubi, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
La toute première conférence sur l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau s'ouvre ce mercredi 8 avril. Que vise cette conférence?
Elle vise à établir un état des lieux de tous les secteurs là que vous venez de citer. Comme on dit en médecine, pour faire une bonne thérapeutique, il faut un bon diagnostic. Donc, savoir les problèmes majeurs qui freinent la relance agricole dans la province du Maniema. Comme vous le savez, jadis, la province du Maniema était le grenier agricole de l'est du pays. Alors, nous allons passer en revue les problèmes majeurs qui freinent la relance de l'agriculture dans la province du Maniema. La province du Maniema a un grand potentiel environnemental. Pourquoi jusqu'à présent elle ne bénéficie pas de la vente des crédits carbone? Il en est de même du tourisme. On a un grand potentiel touristique, beaucoup de sites touristiques qui ne sont pas valorisés. Il en est de même de l'eau. Beaucoup de ressources en eau, mais la desserte en eau est l'une des plus faibles du pays. Donc, nous allons passer en revue tous les secteurs, dégager les problèmes majeurs, formuler des recommandations qu'on pourra transformer en projet, chercher le financement de ces projets et améliorer ainsi la qualité des services vis-à-vis de la population.
Pourquoi alors avoir pensé à inviter aussi ceux qui sont à l'extérieur du pays pour participer à cette conférence? Vous avez quelle vision?
Alors, il s'agit d'un partage d'expériences entre les niveaux provincial, les niveaux central, même les niveaux infranational, c'est-à-dire les ETD, d'une part, dans le secteur public. Les secteurs privés, société civile, Fédération des entreprises du Congo, les partenaires au développement et même la diaspora du Maniema, nous asseoir, analyser ensemble, faire un diagnostic sans complaisance et proposer des solutions ensemble, proposer des sources de financement ensemble. Donc, il s'agit d'une démarche participative pour sortir notre province du gouffre.
Alors, pensez-vous qu'après avoir fait l'état des lieux de toutes ces thématiques, vous pensez que la province peut recouvrir une nouvelle robe?
Bien sûr que oui. Par exemple, pour le secteur agricole, il y a déjà des annonces qui seront faites. Nous sommes déjà sur le terrain avec les ministres d'État en charge de l'agriculture. Il y a déjà des germoires dans le territoire. Donc, pour nous, la relance agricole ne sera pas théorique. Cette année ici, nous allons déjà commencer vraiment des actions sur le terrain avec la culture pérenne du café. Il y a déjà des cafés qui sont en train de pousser. Le cacao est en train d'arriver. Donc pour nous, nous commençons cette année 2026 avec la relance agricole dans notre.
Alors, quelle attitude que doivent adopter tous les participants durant ces 3 jours de travaux?
Une attitude responsable, parce que nous attendons beaucoup de participants, surtout qu'ils sont pour la plupart d'une très grande qualité. Nous attendons des recommandations concrètes, pas des recommandations génériques. Des recommandations concrètes, des solutions qui seront facilement mise en œuvre, pas des recommandations génériques comme je venais de le dire. Donc, nous voulons le changement de la situation et pour y parvenir, il faut bien cerner les problèmes, proposer des solutions réalistes et réalisables et chercher des sources de financement.
Vous organisez plusieurs conférences dans la province. Est-ce que vous avez l'appui ou bien l'accompagnement du niveau national?
Nous avons l'accompagnement du niveau national au plus haut niveau, comme vous le savez. Toutes ces conférences s'organisent sous le haut patronage de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Nous demandons à la population du Maniema, de Kindu en particulier, de bien accueillir nos visiteurs qui seront avec nous ici pendant 4-5 jours, bien les accueillir et surtout de s'approprier les recommandations qui seront ici de cette conférence de haut niveau.
Moïse Moussa Kabankoubi, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
C'était donc notre invité, le gouverneur du Maniema, Moussa Kabankoubi Moïse, dans cet entretien accordé à Florence Kizalunga. Et c'est par là que nous mettons un point final à ce journal de la mi-journée, coordonné par Élisée Chikota-Chivoeta, supervisé par Alain Irungo-Mushinj et mis en onde par André Mongo. Ce journal est à retrouver sur notre compte TikTok et à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.